Bonsoir et merci d'être présent parmi nous pour cette séance de relire avec, dont vous connaissez le principe, puisque la Bibliothèque publique d'information et le service de la parole au Centre Pompidou invitent chaque mois un écrivain à parler d'un écrivain qu'il aime à partir de notre collection de films documentaires que nous diffusons donc à la BPI. Ce soir, nous recevons Stéphane Bouquet, qui est écrivain, scénariste et critique, qui a publié plusieurs livres de poésie et récemment un livre qui s'appelle « Nos Amériques » chez Champ Vallon. Il est également passionné de danse, je crois qu'il était danseur lui-même, et il écrit critique, notamment de cinéma, puisqu'il a écrit longtemps au cahier du cinéma. Voilà, je vais lui laisser la parole. Je crois qu'il y a eu le choix de Constantin Cavafy, ça a fait l'objet d'un débat. Enfin, vous aviez plusieurs auteurs de prédilection, et finalement, le choix s'est porté sur cet écrivain grec d'Alexandrie. Voilà, je vous laisse le soin de justifier tout cela.
Bonsoir. On m'entend ou pas ? Oui, ça marche ? Oui. Oui, effectivement, en fait, quand on m'a proposé de participer à cette série, le premier nom qui m'était venu à l'esprit, c'était le nom d'un écrivain allemand qui est Ingeborg Bachmann. Et puis, il se trouve qu'il n'y a pas de film, il y a des films sur elle, mais tous les films sont en allemand et aucun n'est sous-titré. Donc, j'ai dû changer mon fusil d'épaule et j'ai hésité entre plusieurs personnes. Et puis, je me suis dit, finalement, ça s'appelle relire. Et entre toutes les personnes, tous les écrivains entre lesquels j'hésitais, lequel je relisais le plus souvent, et comme c'était Constantin Cavafy, je me suis dit, je vais essayer de parler un petit peu de Constantin Cavafy. Voilà un peu la raison finalement dernière de mon choix. Avant de commencer, je ne sais pas très bien ce que vous savez ou pas sur Constantin Cavafy, mais avant de commencer, peut-être je voudrais faire une sorte de caveat sur la traduction. Je vais lire quelques poèmes de ce poète grec qui est né en 1863 et mort en 1933. Ces poèmes, je vais les lire dans la traduction de Dominique Grandmont. Il y a plusieurs traductions de Cavafy qui sont disponibles. Même en poésie Gallimard, il y en a deux. Il y en a une qui est Constantin Cavafy donc par Dominique Grandmont, IS, et Constantin Cavafy par Marguerite Yourcenar, Y. Et cette différence déjà orthographique dit quand même beaucoup de choses sur l'idéologie de la traduction. Peut-être j'en parlerai un petit peu, mais je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la traduction. Une des sortes de poncifs qui revient quand on parle de Constantin Cavafy, qui est donc un poète grec, qui aurait pu écrire en anglais puisqu'il a grandi en Angleterre, mais qui a choisi finalement de retourner vivre à Alexandrie et d'écrire en grec. Ce qu'on dit très souvent, c'est que Cavafy est intraduisible parce qu'il mélange deux niveaux de langue et que ces deux niveaux de langue n'existent pas en français, c'est-à-dire la langue classique d'un côté et la langue démotique de l'autre, enfin le grec démotique de l'autre, qui est le grec, démos, le grec populaire, quoi. Et que ces deux langues sont très très différentes et qu'il les intermêle dans sa poésie, si bien que c'est pas traduisible en français. Je vais pas m'attarder sur cette idée parce qu'en fait, on dit aussi que, comme vous savez, la poésie, c'est particulièrement intraduisible. C'est deux idées avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense que si déjà Cavafy a été traduit, c'est qu'on peut le traduire. Et je ne suis pas non plus du tout d'accord avec l'idée que la poésie est intraduisible. Je crois que la poésie est totalement traduisible. Et que si on dit que la poésie est intraduisible, c'est qu'on se trompe, me semble-t-il, sur ce qu'est la poésie. La poésie, ce n'est pas d'abord une affaire de langue. La langue est, me semble-t-il, totalement secondaire dans la poésie. La langue, c'est disons le moyen de la poésie, mais ce n'est pas son but, pour le dire autrement. Et que le but de la poésie, si je devais le dire en un ou deux mots, on pourrait dire le but de la poésie, ce serait plutôt d'inventer une forme de vie. D'inventer une forme de vie, je trouve que c'est encore le meilleur mot. Et c'est un peu ce qu'a fait Cavafy aussi avec sa poésie, c'est-à-dire qu'il s'est inventé une forme de vie. Et donc ça me semble toujours important de préciser. Bien sûr, c'est un point de vue, et je pense qu'il n'est pas universellement partagé, très très loin de là, mais que la langue dans le poème est toujours une question un peu secondaire par rapport à la vie et à la forme de vie vers lequel le poème se dirige. Alors, pour commencer un petit peu à ce caveat fermé, pour commencer un petit peu à vous parler de Cavafy, j'ai décidé de faire comme Cavafy, c'est-à-dire de commencer dans l'Antiquité, puisque vous savez peut-être que Cavafy a écrit énormément, il n'a pas écrit beaucoup de poèmes, en fait, de toute sa vie. Il est né en 1863, il est mort en 1933. De toute sa vie, il a écrit 153 poèmes qu'il a considérés comme aboutis. Donc c'est quand même pas beaucoup. Et beaucoup, beaucoup de ses poèmes se passent dans l'Antiquité. Donc je vais commencer aussi dans l'Antiquité et je vais faire comme lui, puisque lui aussi, quand il écrivait un poème, surtout les poèmes qui se passent dans l'Antiquité, en fait, il les écrivait après lecture. C'est-à-dire qu'il il lisait des livres d'histoire, et dans ces livres d'histoire, il rencontrait des personnages. Et à partir de ces personnages, qui lui plaisaient, qui l'intéressaient pour telle ou telle raison, il écrivait un poème. Par exemple, il a pillé littéralement un livre qui s'appelait, en français, la traduction française, c'est « La maison des Séleucides ». Donc c'est une étude sur l'Empire Séleucide, et il l'a beaucoup utilisé pour écrire sa poésie. Alors, moi, j'ai utilisé, pour commencer, un livre aussi, qui est un livre d'Anne Carson, qui n'a pas été traduit en français, mais qui s'appelle « Economy of the Unlost ». Et dans lequel elle présente un personnage, donc je me suis intéressé à ce personnage aussi, parce que vous allez voir, il me semble qu'il a un rapport avec vraiment le travail de Constantin Cavafy. Ce personnage, il s'appelle Simonide de Chios. Simonide de Chios, il a vécu une très longue vie. On n'a pas exactement ses dates, mais une des datations proposées, c'est 556-468, évidemment avant notre ère. Il y a d'autres datations qui sont proposées, mais globalement, c'est une datation moyenne, 556-468. C'est pas très important ici de savoir quelles sont ces dates exactes. Ce qui est plus important, c'est de savoir qu'il a écrit beaucoup de poèmes. Et que une des raisons de s'intéresser aux poèmes de Simonide de Chios, c'est bien sûr que ces poèmes sont intéressants en soi, mais c'est aussi que Simonide de Chios est, semble-t-il, d'après ce qu'on sait, d'après nos sources, le premier poète à s'être fait payer. En fait, il vivait à une époque où l'économie, le système d'échange monétaire était en train de remplacer, en train de prendre le dessus sur d'autres systèmes d'échange, par exemple sur le système du don, ou encore plus sur le système du troc. Et Simonide trouvait que c'était beaucoup mieux la monnaie, c'était beaucoup mieux l'argent, et que c'était en tout cas beaucoup mieux que le troc et beaucoup mieux que le don. Il n'avait plus envie ni du troc ni du don, et notamment il n'avait plus du tout envie d'être l'invité des puissants. C'est-à-dire qu'il n'avait plus envie de subir les humiliations que les puissants lui faisaient subir. Aristote, par exemple, raconte, à un moment il parle de Simonide de Chios dans un de ses livres, et il raconte une anecdote qui est que Simonide de Chios assiste à un banquet, au banquet de quelqu'un pour lequel il doit écrire un poème, et en fait il se retrouve au fin fond de la table, il a la plus mauvaise part du gibier, et il n'en a même pas assez pour se nourrir complètement. Et donc l'idée de Simonide, c'est de dire « ça suffit comme ça », j'en ai assez de m'humilier et je veux gagner de l'argent avec mes poèmes puisque l'argent est quelque chose, est une valeur qui est en train de prendre le dessus dans l'état de la société. Alors on ne sait pas très bien combien Simonide se faisait payer, mais on a quelques petites informations sur ce qui se passait à l'époque. Un ouvrier agricole, donc à cette époque-là, c'est-à-dire disons fin du 5e siècle avant notre ère, un ouvrier agricole gagnait un drachme par jour. Un médecin, s'il était fameux, donc s'il réussissait vraiment bien à vivre, gagnait 6000 drachmes par an. Alors que l'ouvrier agricole, il en est plutôt à 365 drachmes par an. Phidias, donc le sculpteur, lui s'est fait payer pour la statue d'Athéna Chryséléphantine qui est actuellement encore sur le Parthénon, même si ça doit être une copie qui est aujourd'hui. Il s'est fait payer 5000 drachmes, j'allais dire dollars, mais c'est 5000 drachmes. Pindare, lui, pour ses poèmes, les poèmes notamment qu'il consacrait aux sportifs et aux cités, vous savez que Pindare a écrit beaucoup de poèmes à la suite des Jeux Olympiques, enfin de tous les Jeux sportifs, et il écrivait des poèmes en honneur aux sportifs qui gagnaient les Jeux. Il se faisait payer pour un poème 10 000 drachmes. Et on a des traces que Gorgias, le célèbre rhétoriqueur sophiste, lui se faisait payer pour un cours 12 000 drachmes. Donc vous voyez qu'à l'époque, les poètes et les philosophes, disons, étaient extrêmement bien payés. On ne sait pas, lui, combien Simonide se faisait payer, mais on imagine qu'il se faisait quand même payer assez cher. Alors voilà, maintenant on peut faire un saut dans l'histoire et revenir, rester dans le monde grec, puisqu'on va rester avec Constantin Cavafy, et passer au début du XXe siècle. Constantin Cavafy écrit un poème, dans ses 153 poèmes, il y a un poème qui s'appelle « Le cortège de Dionysos ». Dans « Le cortège de Dionysos », dont j'ai évidemment oublié de noter la page, mais heureusement je l'ai noté là, Le cortège de Dionysos, je vais vous dire, c'est un assez long poème. Constantin Cavafy est quelqu'un qui écrivait plutôt des poèmes relativement courts. C'est-à-dire qu'aucun de ses poèmes ne dépasse les 3 pages. Un seul poème fait 3 pages. Quelques poèmes font 2 pages et la majorité de ses poèmes font 1 page. Donc dans Le cortège de Dionysos, qui est un poème d'une page, voici le début du poème. Damon, le sculpteur, est en train d'achever en marbre de Paros le cortège de Dionysos. Donc le sculpteur, on peut imaginer que c'est comme une espèce de réflexion sur lui en tant qu'écrivain. Donc Damon, le sculpteur, est en train d'achever en marbre de Paros le cortège de Dionysos. Ensuite, Cavafy fait une exphrasis, que je ne vais pas vous lire ici. Donc une exphrasis, c'est, comme vous savez, une description d'une œuvre dans une œuvre. Donc il décrit la sculpture que Damon est en train de sculpter. Et on voit qu'il s'amuse à jouer au poète antique, puisque dans sa description de la sculpture que Damon est en train de sculpter, il multiplie les allusions et les références mythologiques. Et si vous êtes un petit peu, si vous avez lu un peu de poésie, par exemple, hellénistique ou de poésie latine, vous vous souvenez que la référence mythologique est un élément essentiel, en fait, dans la rhétorique poétique de l'époque. Donc, il fait un peu pareil. Donc, il nous décrit la sculpture qui est en train de tailler Damon. Et puis, je redonne la parole à Constantin Cavafy. Voici le travail de Damon, donc le travail qu'on vient de nous présenter. Voici le travail de Damon, moyennant quoi sa pensée ne cesse de revenir au salaire qu'il attend du roi de Syracuse. 3 talents, c'est une grosse somme. En effet, un talent, à l'époque, c'est, en tout cas à Athènes, c'est 6 000 drachmes. Donc 3 talents, c'est une grosse somme. Avec l'argent qu'il a déjà, et celui-ci, dès qu'il l'aura, il pourra vivre largement. Et alors, quelle joie, faire de la politique, et lui aussi dire son mot au conseil et sur l'agora. Donc, ma supposition, c'est que le sculpteur Damon vit de Cavafy vaut évidemment pour tous les artistes, et en particulier pour Cavafy. Et alors, on peut se demander, pourquoi les poètes veulent-ils de l'argent? Et la réponse que Cavafy nous donne ici, c'est, avec l'argent qu'il a déjà, et celui-ci dès qu'il l'aura, il pourra vivre largement, et alors, quelle joie, faire de la politique, et lui aussi dire son mot au conseil et sur l'agora. Donc si les poètes veulent de l'argent, nous dit Cavafy, c'est pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est pour vivre à l'aise. Et la deuxième raison, c'est pour avoir droit de cité au sens propre. C'est-à-dire pour être reconnu comme membre à part entière de la cité. Hein, faire de la politique et lui aussi dire son mot au conseil et sur l'agora. Donc avoir de l'argent pour être un membre à part entière de la cité, pour que le travail poétique ne soit pas considéré comme un travail marginal, mais que ce soit véritablement considéré comme une production. Et je pense que c'est fondamental chez Cavafy, ce désir, même si on verra que ce désir est d'une certaine manière voué à l'échec, mais en tout cas que ce désir est fondamental de faire en sorte que le travail poétique ne soit pas considéré comme quelque chose de marginal, mais quelque chose dont il aurait été si bien, en tout cas, que ce fût aussi une production efficace, etc. Et parce qu'il est important pour Cavafy que le poète puisse s'inscrire dans la cité. Il y a une petite anecdote à ce sujet qui est assez intéressante, qui montre bien comment Cavafy avait ce qu'on peut appeler le souci de la cité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il écrivait dans un mélange de 2 langues, qui était la langue classique et la langue démotique, donc la langue du peuple. Et notamment, il aimait beaucoup utiliser des archaïsmes byzantins. Mais sa terreur, c'était évidemment qu'on ne comprenne pas, enfin, que en tout cas les gens qui puissent être amenés à le lire à son époque, ses contemporains alexandrins, ne comprennent pas, en fait, ces mots qu'il utilisait et qui étaient des archaïsmes byzantins. Et donc, pour être sûr que tout le monde allait les comprendre, on raconte qu'il allait sur le port et qu'il demandait aux débardeurs, là, qui étaient en train de décharger les navires, et il leur citait les mots qu'il comptait utiliser. Et si les débardeurs les comprenaient, il les acceptait et les utilisait. Et si les débardeurs ne les comprenaient pas, il les refusait et les excluait du poème. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire ou pas, mais en tout cas, elle a une espèce de cette légende, elle a une espèce de valeur explicative d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle dit quand même profondément dans quel univers de partage souhaite se trouver Cavafy et pourquoi il est important pour lui que le poète puisse avoir accès à la cité ou à la parole publique. Mais évidemment, à l'époque de Cavafy, et sans doute encore plus aujourd'hui, le poète doit renoncer à l'argent. C'est-à-dire que je ne connais pas un seul poète qui gagne de l'argent. Et il doit pas non seulement renoncer à l'argent, mais il doit aussi renoncer à la moindre influence parmi les hommes. Donc d'une certaine manière, on est dans une espèce de « c'est trop tard ». C'est trop tard. C'est-à-dire que ça aurait été bien qu'en tant que poète, je puisse avoir une influence sur la cité, que je puisse avoir mon mot à dire, que je puisse avoir une sorte de comme ça de pouvoir politique, mais c'est trop tard. Et beaucoup, beaucoup de ces poèmes à Cavafy sont autour de cette thématique du « c'est trop tard, je n'ai plus de pouvoir ». Je vous donne deux exemples et demi. Il y a un poème qui s'appelle Darius. Dans ce poème qui s'appelle Darius, il y a un poète qui s'appelle Phernase. Et Phernase est en train d'écrire un poème sur Darius, qui, vous savez, ce grand roi perse qui a fait de nombreuses conquêtes. Il a presque fini de faire son poème sur Darius, donc de célébrer Darius, Phernase, quand tout d'un coup, on annonce que les Romains viennent de déclarer la guerre au royaume, et que donc on entre dans la guerre, et que l'époque de la paix qu'il était en train de célébrer, Phernase, est définitivement terminée. Et donc, dans le poème Darius, Phernase se lamente, et je cite ici Cavafy, « Quel coup du sort ! Comment maintenant notre illustre roi pourrait-il s'intéresser à des poèmes grecs ? En pleine guerre, figurez-vous, des poèmes grecs. » Donc, premier exemple, disons, de cette espèce de lamentation qu'on retrouve en permanence dans le travail de Cavafy sur l'inutilité quasiment d'écrire de la poésie, en tout cas l'inutilité sociale d'en écrire. Autre exemple, un poème qui s'appelle « Ambassadeur d'Alexandrie ». Dans « Ambassadeur d'Alexandrie », il y a des ambassadeurs donc d'Alexandrie viennent voir les prêtres du temple de Delphes et ils espèrent que ces prêtres vont leur composer un oracle parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent prendre telle ou telle décision. Donc les prêtres se réunissent, rentrent dans le temple et comme ça dans le saint secret du temple essaient de composer un oracle et comme tous les oracles il faut qu'ils arrivent à composer des vers qui soient suffisamment obscurs pour qu'on puisse pas trop savoir ce que ça veut dire. Et donc, ils passent l'après-midi à essayer de rédiger des vers obscurs, de manière à ce que, quand ils vont dire ces vers obscurs aux ambassadeurs d'Alexandrie, les ambassadeurs d'Alexandrie puissent les interpréter de la manière qu'ils veulent, et comme ça, les prêtres, au moins, ne seront pas responsables de la mauvaise interprétation. Ils sortent, ils sont contents, ils ont fini d'écrire ces vers, ils sortent du cœur du temple, ils arrivent donc sur la place devant le temple, et il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils apprennent que, encore une fois, c'est à cause des Romains, et que les Romains, de toute façon, n'ont pas attendu de savoir ce que les prêtres du temple allaient décider. Ils ont déjà décidé, ils ont déjà déclenché une guerre, ce qui fait que la question que les ambassadeurs d'Alexandrie ont posée au temple est totalement inutile. Et le poème finit, encore une fois, sur le fait que les vers mystérieux de l'oracle sont inutiles et que la poésie arrive toujours trop tard. Troisième et dernier exemple, qui là va se... Parce qu'on pourrait vraiment, je pense que sur les 153 poèmes, il doit y avoir une quinzaine de poèmes qui sont sur cette inutilité totale de la poésie, parce que la poésie arrive trop tard, elle est plus à son heure. Donc je donne un demi-exemple d'une certaine manière, parce que l'exemple tient tout entier dans le titre. Le titre, c'est « Seigneur byzantin en exil, s'adonnant à la poésie ». Donc on voit encore une fois que la poésie, c'est l'art des exilés. Que d'une certaine manière, la poésie, c'est pas un art de ce monde, c'est un art de ceux qui ne sont plus de ce monde ou qui ne sont plus dans ce monde. Et chose avec laquelle j'aurais tendance à être d'accord, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien, une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime bien la poésie de Cavafy. Alors si on peut plus faire d'argent avec le poème, ce qui est le cas de Cavafy et c'est le cas de tous les poètes contemporains, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec lui ? À quoi ça pourrait bien servir d'écrire des poèmes ? Alors Cavafy va donner une sorte de réponse dans plusieurs de ses poèmes. De la même façon que dans plusieurs de ses poèmes, il va dire « c'est trop tard », dans plusieurs autres de ses poèmes, il va dire « bon, bah alors si on peut plus faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je vais vous lire un poème qui s'appelle « Jour de 1908 ». Et vous allez voir. Donc « Jour de 1908 ». Je vais vous lire en le commentant un petit peu. « Cette année-là, il s'était retrouvé sans travail et il ne vivait guère que grâce aux cartes, aux tric-trac et à des emprunts. Une place à 3 livres par mois lui avait bien été offerte dans une petite papeterie, mais il l'avait refusée sans la moindre hésitation. Cela n'allait pas. Ce n'était pas un salaire pour un jeune homme relativement instruit comme lui et âgé de 25 ans. Il pouvait gagner jusqu'à 2 ou 3 shillings par jour aux cartes et aux tric-trac. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte, le pauvre garçon ? Dans les cafés de son milieu et les bistrots populaires, même en jouant intelligemment, en choisissant des partenaires idiots. Quant aux emprunts, il ne fallait pas trop compter là-dessus. À peine s'il atteignait un thaler, devant le plus souvent se contenter de la moitié, quand ce n'était pas d'un shilling. Pendant une semaine, quelquefois plus, dès qu'il avait l'occasion d'échapper à la terrible veille, pour se rafraîchir, il allait se baigner tôt le matin. Ses habits étaient dans un piteux état. Il mettait toujours le même costume, un costume couleur cannelle, complètement fané. Ah, ces jours de l'été 1908, où, avec élégance, s'est effacé de votre vue le costume fané couleur cannelle. Votre vue n'a gardé que lui, à l'instant où il les retirait, où il les arrachait de son corps, les habits indignes et les sous-vêtements rapiécés, et il était là, nu, impeccablement beau, une merveille. Les cheveux dépeignés, tout ébouriffés, les membres légèrement hâlés à cause de leur nudité matinale au bain et sur la plage. Donc, on voit bien que la question monétaire, c'est une question qui est quand même très importante, encore une fois, dans ce poème. Et c'est vraiment important dans tout son travail. Et on voit aussi que finalement, les hypothèses pour gagner de l'argent, à la fois le travail, parce qu'on offre une place dans une petite papeterie à ce jeune homme, alors la papeterie, c'est les papiers, c'est les crayons, c'est quelque chose qui a rapport avec l'écriture, mais on voit que ça ne va pas. Hein, mais il l'avait refusé sans la moindre hésitation, cela n'allait pas, ce n'était pas un salaire pour un jeune homme relativement instruit comme lui, et qui a 25 ans, ce qui est assez étrange, et qui a 25 ans, parce qu'on ne voit pas bien le rapport, mais c'est important chez Cavafy, parce que la datation des gens est très importante, l'âge des gens est très important, puisqu'en général, on ne dépasse pas les 30 ans. C'est un peu comme dans un film de science-fiction, je ne me souviens plus le titre, dès que quelqu'un dépassait les 30 ans, dès que les gens dépassaient les 30 ans, on les tuait, ben, chez Cavafy, c'est un peu pareil. Et donc, la possibilité du jeu et la possibilité du travail n'existe pas, ou en tout cas sont effacées. Et donc ce qui reste finalement, c'est l'errance dans les rues, l'errance dans la pauvreté, ses habits étaient dans un piteux état, et puis il les arrive à la plage, il les retire, ses habits indignes et les sous-vêtements rapiécés, et il était là nu, nous dit le poème, impeccablement beau. Et finalement, c'est une des grandes solutions de Cavafy, selon moi, ce qu'il nous dit, Cavafy, c'est que la seule façon de quitter la pauvreté, ça ne va pas être par le travail, ça va être par la beauté. C'est-à-dire la seule façon de se sortir de la pauvreté, qui est, disons, le statut indépassable du poète, d'une certaine manière, ça ne va pas être d'essayer d'espérer gagner de l'argent parce que ça ne va jamais vraiment marcher. Le travail, ça ne va pas marcher. Le jeu, ça ne va pas marcher. Et donc, il y a une seule autre richesse qui est possible, une seule autre richesse qui ne coûte rien. Et cette autre richesse qui ne coûte rien, c'est la beauté. Et cette idée-là, il va aussi la répéter dans un autre de ses poèmes. Par exemple, un autre de ses poèmes qui s'appelle « Un jeune écrivain dans sa 24e année ». Vous voyez comme c'est important chez Cavafy toujours de savoir quel âge ont les gens. Un jeune écrivain dans sa 24e année, on a exactement la même structure. Par ailleurs, il est sans travail, cet écrivain. Donc par ailleurs, il est sans travail. Il emprunte tant bien que mal. Ah oui, parce qu'il y a le jeu, il y a le travail, et puis il y a l'emprunt. Mais l'emprunt non plus, c'est jamais une possibilité très très énorme qui est offerte aux pauvres. Donc par ailleurs, il est sans travail. Il emprunte tant bien que mal de petites sommes d'argent. C'est tout juste s'il ne doit pas les mendier pour arriver à subsister. Il embrasse les lèvres adorées, sur ce corps sublime, il jouit. Là, je trouve cette construction vraiment très intéressante, c'est-à-dire, donc c'est vers le milieu du poème, et si je peux me permettre de la redire, par ailleurs, il est sans travail, il emprunte tant bien que mal de petites sommes d'argent, c'est tout juste s'il ne doit pas les mendier pour arriver à subsister. Il embrasse les lèvres adorées, sur ce corps sublime, il jouit. Et je trouve qu'il y a une espèce, alors je ne sais pas, ça doit avoir un nom rhétorique, mais il y a une cassure qui est extrêmement étrange, c'est-à-dire qu'il embrasse les lèvres adorées sur ce corps sublime, il jouit. Ça arrive un peu, comme on dirait vulgairement, comme un cheveu sur la soupe. Ça surgit en tout cas sans lien logique, et ça vient doter le verbe subsister, pour arriver à subsister, d'une autre hypothèse. C'est-à-dire que pour subsister, on peut faire des emprunts, ou pour subsister, on peut aussi embrasser des lèvres pour vivre, et donc pour jouir. Donc, une des grandes solutions de Cavafy, enfin, je crois qu'on peut dire que c'est même la solution chez Cavafy pour sortir de la pauvreté, ça ne va pas être d'écrire des poèmes, ça va être d'abandonner la pauvreté pour la beauté. Et la beauté, ça va être véritablement le viatique qui assurera d'une certaine manière la survie. Alors, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce qu'on abandonne l'argent pour la beauté, d'une certaine manière, que l'argent et la beauté, ça n'a plus rien à voir. Chez Cavafy, l'argent, ça vient toujours à la rescousse de la beauté. C'est-à-dire que l'argent, c'est toujours là. C'est vraiment étonnant chez ce poète, l'obsession monétaire. L'argent est toujours là pour souligner la beauté, pour la renforcer, et peut-être même parfois pour la rendre possible. Je vous cite juste un petit exemple dans un poème qui s'appelle « Deux jeunes gens de 23 et 24 ans ». J'insiste pas sur la datation encore des gens. Donc dans « Deux jeunes gens de 23 et 24 ans », la scène se passe dans un café, au fin fond d'un café, nocturne. Il y a un garçon qui attend son ami, dans un café donc, et son ami ne vient pas. Et pour s'occuper, il attend une heure, il attend deux heures, il attend trois heures, et pour s'occuper, il va donc décider, il va s'acheter des cigarettes, il va s'acheter à boire, et donc il va dépenser ses trois malheureux shillings, c'est tout ce qu'il avait. Et il se voue dans la tente de son ami, il se voue à la pauvreté. Et puis, finalement, son ami arrive, miracle, et il lui dit, excuse-moi, enfin, il lui dit pas exactement ça dans le poème, mais en gros, il lui dit, excuse-moi, j'étais en retard, j'ai gagné 60 livres au casino. Et alors là, je cite Cavafy, leur beau visage, leur jeunesse merveilleuse, la profonde affection qui les unissait, se trouvèrent ranimés, vivifiés, revigorés par les 60 livres du casino. Donc vous voyez, il n'y va pas de main morte, hein, trois adjectifs, la profonde affection qui les unissait se trouvèrent ranimés, vivifiés, revigorés, trois adjectifs pour dire à quel point l'argent participe de la beauté, et participe plus que de la beauté, participe de la vie. Et qu'il y a toujours chez ce poète, donc, qui en plus avait un peu d'argent quand même, hein, il était employé, c'était pas quelqu'un qui était dans la misère, même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, il y a toujours chez ce poème le sentiment que l'argent c'est extrêmement important. Et quand il parle, quand il fait ses poèmes antiques, par exemple il va parler d'Antioche, qui était une ville qui était très très réputée, donc la capitale des Séleucides, qui au moins au IIe siècle avant Jésus-Christ était très réputée pour sa richesse, ça déborde de luxe, ça déborde de statues, ça déborde de tapis, etc. Et donc ces descriptions dans les poèmes antiques sont toujours pleines d'une richesse comme ça, très très ostentatoire. Ça déborde de parfums dans les cheveux, qui coûtent extrêmement cher, ça déborde d'encens dans les pièces, etc. Donc on a toute une description à la fois un peu étouffante et en même temps qui dénote fondamentalement la richesse, qui est très importante. Donc on a toujours des signes de richesse comme ça qui sont mis en avant, et la richesse participe systématiquement de la beauté. Et logiquement, si l'argent et la beauté ça va ensemble, on est à peu près sûr de trouver ce qu'on trouve finalement dans ces poèmes, c'est-à-dire une espèce d'éloge totalement constant de la prostitution. C'est quelqu'un qui adore la prostitution. Je ne sais pas trop s'il s'y livrait, enfin lui-même ne devait pas s'y livrer parce qu'il avait la malchance de ne pas être très beau. Mais peut-être qu'il payait des prostituées. Et chez Cavafy, la prostitution est importante, mais pas au sens social. C'est pas parce que la prostitution, ça remplirait un rôle social, vous savez, c'est ce qu'on dit parfois, c'est important parce que, et ce qui est sans doute vrai, hein, mais ça permet de faire tomber la tension, ça permet de procurer une espèce de dérivatif aux angoisses et au mal-être, disons, on dirait aujourd'hui de la classe moyenne, mais on aurait dit plutôt à son époque du bourgeois moyen. Donc c'est pas pour ça que la prostitution l'intéresse chez Cavafy. Ce qui l'intéresse toujours, c'est que la prostitution, c'est ce qui est à la fois normalement au service de la beauté, puisque les prostituées sont quand même supposées être belles ou beaux, et aussi au service de l'argent et de la transaction. C'est-à-dire c'est la prostitution, c'est le lieu où l'argent et la beauté finalement se marient le plus fortement. J'en donne un petit exemple, je vais peut-être lire le poème en entier. Ça s'appelle « Jour de 1896 ». Donc là encore, hein, vous voyez, il y a vraiment chez Cavafy, mais on verra peut-être un peu pourquoi, une obsession totale de la... Hein, mais ça, c'est la version Yourcenar. Pardon. « Jour de 1896. Son discrédit fut total. Des penchants amoureux, strictement réprimés, autant que réprouvés, naturels cependant, en furent la cause. » La société était d'un rigorisme étroit. Il perdit progressivement le peu d'argent qu'il avait, par la suite son rang et sa réputation. Il approchait de la trentaine, âge fatidique, sans avoir jamais pu garder le même travail pendant un an, avouable en tout cas. Parfois, pour subvenir à ses besoins, il se laissait aller à des transactions qu'on qualifie de honteuses. Il finit par être un personnage qu'on ne pouvait plus guère fréquenter sans risque d'être sérieusement compromis. Mais cela n'est pas tout, ce ne serait pas juste. Davantage nous intéresse le souvenir de sa beauté. Il est un autre aspect des choses qui, si l'on y regarde bien, le fait apparaître sympathique, le montre sous le jour d'un simple et authentique enfant de l'amour qui, plus haut que l'honneur et que sa réputation, a mis spontanément le plaisir sans mélange de sa chair innocente. Que sa réputation, mais la société qui était d'un rigorisme idiot, raisonnait autrement. Donc là aussi, je pense que c'est quand même assez clair dans le poème, parce que l'avantage des poèmes de Cavafy, comme vous avez remarqué, c'est qu'ils sont très très prosaïques, donc ils ne sont pas très compliqués, ils ne sont pas très compliqués à comprendre, même s'ils ont dû être sans doute très compliqués à écrire. Et on voit bien aussi dans Jour de 1896, donc qu'il ne faut pas, d'une certaine manière, vouer le prostitué aux gémonies, mais qu'il faut au contraire le féliciter d'être un enfant de l'amour, et c'est-à-dire d'avoir vendu de s'être livré au plaisir sans mélange de sa chair innocente, pardon, de s'être livré au plaisir sans mélange de sa chair innocente, et d'avoir fait ce que Kavafi appelle des transactions qu'on qualifie de honteuses. Et évidemment, si on les qualifie de honteuses, c'est que Kavafi, lui, ne les pense pas honteuses. Donc voilà, je résume, le poète est condamné à la pauvreté, et pour sortir de cette pauvreté, c'est pas l'argent qu'il faut chercher, c'est la beauté. Voilà à peu près où on en est. Alors la question qui peut venir après, c'est mais où on va la trouver, cette beauté? La réponse de Kavafi, c'est dans les corps. Hein, c'est d'abord dans les corps, mais en fait, sa vraie réponse, c'est que c'est avant tout dans les corps, et même c'est pas avant tout dans les corps, c'est totalement, exclusivement dans les corps. Et ça, c'est une autre chose qui me fascine vraiment chez lui, c'est que je crois pas que je connaisse de poète aussi monomaniaque, pour dire obsédé sexuel si vous voulez, mais je crois que monomaniaque, c'est mieux, ou alors de si honnête sur ce qu'il est. Parce que d'habitude, les poètes, même s'ils s'intéressent beaucoup au corps, ils font toujours un peu semblant de s'intéresser à autre chose, par exemple aux oiseaux, ou alors s'ils veulent se jouer d'avant-garde, ils vont plutôt s'intéresser aux tuyauteries, mais finalement, c'est un peu la même chose. Lui, Kavafi, il y a vraiment, si vous lisez ses poèmes, ça ne parle, si j'ose dire, que de corps, et donc de sexe, même si c'est pas très très décrit, mais ça parle de corps, de sexe, et ça c'est une des choses quand même très importantes, et surtout à l'époque où il écrit, parce qu'il est donc, je vous rappelle, né en 1863, et donc la majorité de ses poèmes, il les a écrits entre 1901 et sa mort, et son honnêteté poétique, c'est de considérer que le sexe ne fait pas déchoir le poème de sa hauteur. De manière générale, je pense qu'à l'époque, on pouvait considérer que le sexe et la poésie, ça ne pouvait pas aller ensemble, que le sexe n'était pas à la même hauteur que le poème. Et chez Kavafi, c'est le contraire, si j'ose dire, c'est que non seulement le sexe est à la hauteur du poème, le corps est à la hauteur du poème, mais que c'est même le corps et le sexe qui donnent au poème sa fabuleuse puissance d'élégie. Parce qu'on est là face à une poésie qui est extrêmement élégiaque, extrêmement mélancolique, et peut-être si vous commencez à voir, si vous n'aviez pas déjà vu, que toutes ces datations-là, jour de 1896, jour de 1908, garçon âgé de 23 ans, écrivain âgé de 24 ans, etc., sont dans une espèce de... Mais encore une fois, j'y reviendrai, mais sont dans une espèce d'obsession tombale de l'inscription du temps, en fait, qui passe parce que l'élégie, au fond, est le cœur même de la poésie de Kavafi, et l'élégie, elle passe par le corps et le corps qui disparaît. L'élégie, elle passe pas par les disparitions des personnages, elle passe pas par la disparition de l'amour. L'amour, c'est pas trop un truc qui l'intéresse. Elle passe vraiment par des corps qui sont jeunes et qui vont plus être jeunes, qui vont avoir 30 ans. Et à partir du moment où les corps ont 30 ans, il peut plus en parler. Et donc, ça l'empêche d'écrire des poèmes. Et c'est là, je crois, où il y a quand même un paradoxe très étonnant. C'est-à-dire, donc, la beauté chez Kavafi, elle se trouve dans les corps. Mais on va la trouver où, alors? Eh ben, la réponse qui viendrait le plus facilement à la question où trouver la beauté si la beauté est dans les corps, c'est de dire, sors dans les rues, Constantin, si je puis me permettre, et tu vas la trouver, la beauté. Et c'est à peu près ce qu'il a fait. C'est-à-dire que Constantin Kavafi est aussi un poète extrêmement urbain. C'est un poète qui se promène beaucoup dans les rues. Et il se promène dans les rues, essentiellement à Alexandrie, puisqu'il a très très peu quitté Alexandrie. Et il vivait à Alexandrie, donc au début du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, comme vous savez, l'intolérance n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc Alexandrie restait une ville vraiment multiconfessionnelle. Donc il y avait... évidemment des musulmans, mais il y avait aussi une très forte communauté juive, il y avait une forte communauté chrétienne, il y avait une forte communauté orthodoxe, grec-orthodoxe, etc. Donc on était dans un monde véritablement multiconfessionnel. Or, dans les poèmes de Kavafi, qui on rencontre? On rencontre des juifs, on rencontre évidemment des grecs orthodoxes, on rencontre des chrétiens coptes, mais on ne rencontre jamais, d'arabes musulmans. Alors c'est totalement étonnant. On se dit, mais pourquoi il ne rencontre pas d'arabes musulmans? Parce qu'au fond, il n'y a quand même pas de raison de penser qu'il n'y avait pas de mecs mignons à Alexandrie, qui étaient aussi des arabes, alexandrins et musulmans. Et donc, pourquoi il n'en parle pas? Alors, comment on peut expliquer cette absence? Il y a deux raisons. Il y a une première hypothèse, et je vous rassure, une fois que... Non, j'ai bientôt fini, je vous rassure. Il y a une première hypothèse, c'est une réponse... qui serait une réponse de type politique. C'est-à-dire, on peut dire, Constantin Kavafi chantait les louanges de la Grande Grèce. Ce qui l'intéressait, c'était de chanter la Grèce à son plus haut, c'est-à-dire à son plus large, à son plus étendu, à son plus impérial. Donc la Grèce dont il parle, c'est pas la Grèce que nous on connaît, c'est-à-dire, enfin, qu'on, En tout cas, ce n'est pas la Grèce à laquelle on pense le plus immédiatement. Ce n'est pas la Grèce d'Athènes ou ce n'est pas la Grèce de Sparte. C'est une autre Grèce. Et c'est la Grèce des royaumes hellénistiques. Et c'est la Grèce, en fait, qui était à son plus haut au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est pour ça que le IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est sa période préférée. Parce que c'est le moment où la Grèce va jusqu'à l'Indus, en gros. C'est-à-dire, c'est le moment où elle est aussi en Afrique du Nord, etc. Donc, c'est le moment où la Grèce est partout, si j'ose dire. Et puis, après 200 avant notre ère, ça va disparaître. Petit cours d'histoire juste pour vous rappeler. Mais en 1797, c'est la bataille de Cynocéphalès qui, si vous l'avez oublié, est la bataille où les Macédoniens sont vaincus par les Romains. Donc, c'est le début de la fin. En 197 avant notre ère, bataille de Cynocéphalès. En 190 avant notre ère, bataille de Magnésie, où c'est au tour des Séleucides d'être battus par les Romains. Puisque aussi, pour vous rappeler, quand Alexandre est mort, en fait, les généraux se sont partagés son empire. Il y a eu trois grands empires qui en sont sortis. Le royaume macédonien, le royaume séleucide autour de la Syrie et le royaume lagide autour d'Alexandrie. Donc 190, bataille de Magnésie, c'est la fin des Séleucides. Et puis petit à petit, ça va être aussi la fin des Lagides. Donc 200, c'est vraiment le dernier moment où la Grèce est grande. Et il est assez logique que dans ce cas-là, que dans son espèce de militantisme pro-helléniste ou pro-hellénique, Cavafy écrive un poème qui s'appelle « En 200 avant Jésus-Christ », que je vais aussi vous lire. « En 200 avant Jésus-Christ, Alexandre, fils de Philippe, et les Grecs, sauf les Lacédémoniens. » Cette phrase est entre guillemets. Donc c'est une citation. Vous voyez bien que, en fait, c'est un procédé très important d'écriture chez Cavafy, de prendre des bouts de phrases qu'il trouve, soit sur les tombeaux, soit dans les livres, soit sur les monnaies, et à partir de ces bouts de phrases, de composer des poèmes. Je vais donc reprendre. Alexandre, fils de Philippe, et les Grecs, sauf les Lacédémoniens. Nous pouvons très bien imaginer qu'à Sparte, on resta parfaitement indifférent à cette inscription, sauf les Lacédémoniens. Quoi de plus naturel ? Les Spartiates n'étaient pas du genre à se laisser conduire et commander comme de dociles serviteurs. Par ailleurs, une expédition panhellénique sans un roi spartiate à sa tête n'a pas dû leur sembler de grande importance. Alors, bien entendu, sauf les Lacédémoniens. C'est une position, en tout cas. Elle se comprend. Et donc, sauf les Lacédémoniens sur le granit, tout comme à Issos par la suite, et dans cet engagement décisif où fut balayée la formidable armée que les Perses avaient rassemblée à Arbélès, qui partit d'Arbélès en chantant victoire et se vit balayé. Et de cette prodigieuse campagne panhellénique dont la victoire mémorable, éclatante, fut célébrée, comme ne fut célébrée aucune autre, et qui n'a jamais connu d'égal, nous sommes issus, nous autres, un monde grec nouveau, plus vaste. Nous, les gens d'Alexandrie, d'Antioche, de Séleucie, et les innombrables autres Grecs d'Égypte et de Syrie, et ceux de Médie, ceux de Perside et tant d'autres, par une extension de nos zones d'influence, par une gamme variée de compromis savants. Et quant à la langue grecque commune, c'est jusqu'en Bactriane que nous l'avons portée, jusqu'aux Indes. Alors parlons-en des Lacédémoniens. Donc, il me semble qu'avec ce poème, et il y en a aussi beaucoup d'autres qu'on pourrait lire sur cette question, le militantisme hellénique de Cavafy est totalement indéniable. Et je pense qu'on aurait du mal à dire que chez Cavafy, au moment où il écrit, c'est-à-dire au début du XXe siècle, quand il commence à sentir que l'Alexandrie qu'il a connue, c'est-à-dire une Alexandrie multiconfessionnelle, et pas seulement multiconfessionnelle au sens où on le dirait aujourd'hui, c'est-à-dire où il y aurait des confessions qui seraient capables de vivre les unes à côté des autres, mais au sens où véritablement le pouvoir était partagé entre toutes les confessions, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir spirituel, etc., que cette Alexandrie-là, donc, qu'il avait connue durant sa jeunesse, était en train petit à petit de battre de l'aile et allait disparaître, et qu'elle était, au fond, protégée fondamentalement par les Anglais, et qu'à partir du moment où les Anglais allaient quitter Alexandrie, ou en tout cas allaient retirer leur influence, ou qu'on allait leur faire retirer, plus exactement, alors cette Alexandrie-là était vouée à sa mort. Donc il y a vraiment un militantisme hellénique chez Cavafy, et je pense qu'il n'est pas loin de penser que le grand élément à Alexandrie, en tout cas il ne dit jamais le contraire, le plus grand élément, c'est les Grecs. Après viennent les Juifs en général chez lui, mais surtout les Juifs hellénisés. Il a un poème comme ça sur Alexandre Janet où il dit ça. En gros, il dit « Bon, bah, lui, il était très bien parce qu'il était hellénisé. » Je ne dis pas du tout une seule seconde qu'il y avait un poil d'antisémitisme chez Kavafi, hein. Mais il y avait un sentiment que l'hellénisme était vraiment la valeur dominante. Bon, c'est une explication possible au fait que quand il sort dans les rues, Constantin Kavafi, il voit que des Grecs, en fait. C'est très étonnant, mais il voit que des garçons grecs. Et il voit pas les autres. C'est une explication, disons, de type politique. J'ai une autre hypothèse à faire, qui me semble aussi valide. C'est l'autre hypothèse, c'est que les garçons des rues que Kavafi serait capable de rencontrer comme ça, ils sont finalement trop vivants. Trop vivants pour la forme de désir dont souffre Kavafi. Parce que Kavafi, au fond, il a une forme de désir très très particulier. C'est ce qu'on appelle en grec, d'ailleurs, alors en grec moderne, je ne sais pas, mais en grec ancien, cette forme de désir dont souffre Kavafi, ça s'appelle le pothos. Le pothos, c'est une forme du désir qui a comme caractéristique de ne s'adresser qu'à des objets disparus. C'est-à-dire le pothos, en fait, c'est le désir pour l'objet qui a disparu. Et c'est quand même assez intéressant de penser qu'une civilisation a inventé comme ça un mot pour exprimer une forme de désir, qui est la forme du désir même du mélancolique d'une certaine manière, c'est-à-dire ne désirer que ce qui est déjà mort et ce qui est totalement inaccessible. Eh bien le pothos, en fait, c'est quelque chose qui est fondamental chez Kavafi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il date sans arrêt tout ce qu'il écrit. Parce qu'un objet n'est chez lui désirable qu'à partir du moment où il est mort. Et si vous comptez le nombre de ses poèmes, il a, je vous rappelle, écrit 153 poèmes, eh bien, sur ces 153 poèmes, 48 poèmes sont des tombeaux. Donc ça fait globalement un tiers, quoi, peut-être un peu moins d'un tiers, des poèmes sont des tombeaux. Donc c'est vraiment ce désir qui ne s'adresse qu'à des morts est quelque chose qui est fondamental. Là aussi, je vais vous lire deux poèmes qui sont très courts, où vous allez entendre ça. Le premier s'appelle « Reviens », donc évidemment c'est ce retour du pothos. « Reviens souvent me prendre, sensation bien aimée, reviens me prendre, quand la mémoire du corps se réveille, et qu'un désir ancien tressaille dans le sang, quand les lèvres et la peau se souviennent, et que les mains ont de nouveau l'impression de toucher. » Reviens souvent me prendre la nuit, à l'heure où les lèvres et la peau se souviennent. Puis autre, page suivante, parce qu'il y en a tellement que c'est pas très difficile à trouver. Loin, je voudrais raconter ce souvenir, mais le voici effacé désormais. Il n'en subsiste presque rien, car il gît loin, très loin dans ma prime jeunesse. La peau comme du jasmin, cette soirée d'août, était-ce en août, une soirée? C'est à peine si je me rappelle les yeux. Ils étaient bleus, je crois. Ah oui, bleus, d'un bleu de saphir. Donc, encore une fois, ces exemples, on pourrait en trouver des tonnes, puisque c'est presque l'intégralité des poèmes de Kavafi qui sont consacrés à cette question de la résurrection, en fait, de ce qui est mort, et de la résurrection de ce qui est mort pour qu'on puisse le revivre, et en le revivant, revivre, et donc vivre même tout simplement. Donc, c'est en ça que je disais que c'était une poésie qui était fondamentalement une poésie élégiaque, puisque c'est une poésie qui ne se soucie pas véritablement du temps présent, qui ne se soucie que des ruines, que de ce qui reste, en fait, de ce qu'on peut sauver du monde. Alors, vous n'allez pas le voir ici, parce que c'est pas... Voilà, vous êtes trop loin. Mais Kavafi, c'est quelqu'un qui écrivait des poèmes assez visuellement assez réguliers, enfin qui n'étaient pas assez des vers plutôt libres, et puis c'est juste des vers qui se suivent comme ça à la ligne. Sa seule innovation de type typographique ou de type de mise en page, je vous le montre comme ça, mais je suis sûr que vous ne le voyez pas, donc ce n'est pas grave. Vous voyez, en fait, enfin c'est grave, je veux dire, mais je vais vous l'expliquer. En fait, très souvent, il commence un vers, il le coupe au milieu, il y met un blanc et il le finit comme ça. Et au fond, ce qu'il cherche à retrouver, c'est la forme de la stèle. Donc la seule, avec, vous savez, ces stèles qu'on voit, ces stèles antiques qu'on voit, et donc ça lui arrive très très souvent de casser son poème en deux au milieu, en fait, et de casser la lecture. Donc il peut lui arriver de casser le poème en deux au milieu même d'une phrase, hein, c'est évidemment pas un problème pour lui. Ce qui est important, c'est de réussir à trouver, à avoir, visuellement, à nous donner un sentiment qui va être aussi le sentiment du sens du poème, qui est le sentiment, finalement, du fait que Kavafi est un poète qui arrive après pour constater que les gens sont morts et que peut-être par la puissance de sa poésie il va réussir à les ressusciter. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à un moment, plusieurs fois, il définit ce qu'est pour lui la poésie. Et dans un poème qui s'appelle « Suivant la formule des antiques mages grecs de Syrie », il est très court, donc je peux vous le lire aussi, il explicite précisément ce qu'il aimerait faire. Donc ça s'appelle « Suivant les formules des antiques mages grecs de Syrie ». Quelle distillation opérée à partir d'herbes magiques, dit un esthète. L'esthète, c'est probablement lui. Hein. Quelle distillation opérée à partir d'herbes magiques, dit un esthète. Quel élixir préparé suivant les formules des antiques mages grecs de Syrie, qui ne serait-ce qu'un jour, si son efficacité ne dure pas davantage, ou ne serait-ce qu'une heure, puisse faire que j'ai 23 ans une nouvelle fois, puisse me ramener mon ami avec ses 22 ans, sa beauté, son amour. Quel élixir préparé suivant les formules des antiques mages grecs de Syrie, qui, une fois remonté le cours des choses, puisse nous ramener aussi notre petite chambre. Alors, pour finir, je voudrais juste citer deux élixirs que Cavafy a utilisés. Le premier élixir, c'est l'élixir de la sensation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Reviens, il dit quelque chose comme ça. Hein. Il parle de la sensation, et même dans Loin, dans Reviens, il dit « Reviens souvent me prendre, sensation bien-aimée, reviens me prendre ». Et dans Loin, il dit « Je voudrais raconter ce souvenir ». Et ensuite, il parle de sensation, la peau comme du jasmin, puis sensation visuelle. C'est à peine si je me rappelle les yeux, elles étaient bleues, je crois. Oui, bleues, d'un bleu de saphir. Donc la sensation est extrêmement nombreuse. Il y a beaucoup d'allusions au parfum, beaucoup d'allusions aux odeurs, beaucoup d'allusions à la peau qui est soit soyeuse, soit qui est pâle, etc. Donc on pourrait se dire « Tiens, Cavafy, c'est globalement un contemporain de Proust, on est dans la même idée d'une poétique proustienne de la mémoire. En fait, d'une poétique proustienne au sens où c'est la sensation qui va déclencher, développer la mémoire. En même temps, si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas exactement comme chez Proust. Parce que chez Proust, au fond, il y a une attention très très aiguë qui est portée à la fois à la précision de la sensation et à l'intimité du monde qu'elle va déployer. Bon, la fameuse Madeleine, ou les pavés inégaux, sur le sol qui lui rappelle Venise, ou ces trois arbres quand il est avec la marquise de Villeparisis à Tansonville et qu'il voit trois arbres qui lui rappellent quelque chose. Puis finalement, c'est un exemple dans le livre où ces trois arbres ne font pas remonter le souvenir, ou la petite sonnette qu'il y a quand il est au dîner des Guermantes, là, à la fin, dans la soirée des Guermantes, quand il y retourne. Tout ça, c'est des sensations ultra précises et qui vont développer vraiment sur une intimité du souvenir. Alors que chez Cavafy, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que si on regarde les allusions aux sensations, on s'aperçoit que ces allusions aux sensations, elles sont extrêmement codées, en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus pauvre, d'une certaine façon, que chez Proust, si on prend ça du point de vue vraiment de l'acuité sensorielle. Mais c'est probablement pas son projet à Cavafy. Son projet, c'est pas du tout d'avoir une acuité de la sensation, c'est d'avoir des sensations qui sont plutôt archi-codées, parce que finalement, ce à quoi il se mesure, c'est toujours à une espèce d'étalon antique. Et là, ce à quoi il va se mesurer, c'est aux formes de la poésie grecque néoclassique ou alexandrine, et il va essayer de retrouver, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il retrouve les codes de la tradition classique. Et donc, quand il mentionne la beauté, il la mentionne de la façon dont la poésie classique ou néoclassique alexandrine l'a mentionné. Et toutes ces mentions de beauté ont toujours une tendance à faire en sorte que le corps va être d'une proportion parfaite, hein, le corps va être comme une statue, à un moment il dit le corps même ressemble aux charmides de Platon. Hein. Donc c'est vraiment toujours, il prend l'étalon antique comme un étalon de mesure, et ce qu'il va avoir tendance à dire, c'est voilà, le corps ressemble à un corps magnifique de l'Antiquité, en fait. Et donc, il ne cherche à aucun moment, disons, à être original ou à être aigu sur la sensation. Il cherche plutôt, il reproduit d'une certaine manière les codes d'une poésie qui, elle aussi, est morte. Et donc, c'est évidemment intéressant, c'est qu'un écrivain qui s'intéresse aux choses lorsqu'elles sont mortes, s'intéresse aux choses quand elles sont mortes, dans les formes d'une poésie qui, elle-même, est morte. Et ce qu'il essaye de faire, c'est si en ressuscitant les formes d'une poésie morte, on peut de la même façon ressusciter les gens dont parle cette poésie morte, si je suis clair. Donc ça, c'est un de ses premiers élixirs, disons. Le deuxième élixir que je voudrais mettre en avant, c'est celui de la chanson populaire. Je ne sais pas si vous avez entendu, hein, on peut dire qu'il y a un modèle qui flotte, qui est le modèle de la chanson, et que Cavafy va très souvent utiliser la répétition, en fait, et d'une certaine manière la répétition pour essayer d'en faire une sorte de refrain. Alors je vais juste vous en lire deux exemples, mais avant, du coup, il faudrait faire un sort à la traduction de Marguerite Yourcenar, qui est une très belle traduction, parce que Marguerite Yourcenar est une très bonne traductrice, mais Marguerite Yourcenar a pris un parti que je trouve assez étonnant, qui est de dire, au fond, les répétitions chez Cavafy, bon, c'est un peu saoulant, elle le dit pas comme ça non plus, j'ai oublié son adjectif, en tout cas, ça ne m'intéresse pas, je pense qu'en grec, dit-elle, je pense qu'en grec, on les entend moins, qu'on ne les entendrait en français si je les traduisais. Et donc, je décide de ne pas les traduire, avec cette idée que, un, c'est beaucoup moins euphonique en français qu'en grec, la répétition, déjà comme premier principe, la répétition de fonctionnement en français qu'en grec, et secondo, en grec, en plus, on l'entend moins qu'en français. Et donc, je décide de ne pas les traduire. C'est un choix. Moi, j'ai pas d'avis sur les traductions. Je pense pas qu'il faille absolument être d'une fidélité littérale absolue, etc. Du moment que les choix sont tenus et sont conséquents. Mais bon, là, ça me semble quand même dommage de pas traduire les répétitions chez Cavafy, parce qu'au fond, peut-être on peut se dire qu'elle trouvait que les répétitions chez Cavafy étaient un peu trop faciles. Enfin, du coup, faisaient un peu trop verser la poésie de Cavafy vers la chanson, et que ça lui déplaisait. Parce que je vais vous en lire deux, vous allez voir comment c'est. Les poèmes de Cavafy sont entièrement construits vraiment sur la question de la répétition, et que cette répétition, c'est pas une répétition à la Gertrude Stein, hein. C'est une répétition de base. Donc c'est un poème qui s'appelle Désarroi, donc qui est aussi, lui aussi, construit comme une stèle, vous voyez, qui est vraiment la seule innovation typographique de taille de Cavafy. Désarroi. Cette fois, il l'a vraiment perdu, et le voici qui cherche. Sur les lèvres de chaque partenaire de rencontre, ses lèvres à lui. Dans l'étreinte avec chaque partenaire de rencontre, il cherche à se convaincre qu'il s'agit de son ami, qu'il s'abandonne à lui. Il l'a vraiment perdu, comme s'il n'existait plus. Parce que lui, à l'entendre, il voulait se sauver de cette infamie, de cette volupté morbide, de cette infamie, de cette volupté de la honte. Il était encore temps, ce sont ses mots, de se sauver. Il l'a vraiment perdu, comme s'il n'existait plus, par l'imagination, l'égarement des sens, sur les lèvres des autres, ce sont ces lèvres qu'il recherche. Il essaie de sentir à nouveau son amour. Donc vous voyez bien là comment en fait la répétition est essentielle, puisque tout le poème est construit sur ces effets de répétition, et qu'en même temps cette répétition, par exemple avec, je ne sais pas si on peut dire que c'est une espèce d'anaphore strophique, il l'a vraiment perdu, il l'a vraiment perdu, il l'a vraiment perdu. On a le sentiment vraiment que ça fonctionne sur des effets de refrain et qu'il y a un travail de la répétition qui, je pense, est volontairement, j'allais dire facile, c'est pas exactement facile, mais il y a une recherche véritablement, et c'est en ça que certainement il y avait chez Cavafy la volonté de mêler la langue classique et la langue démotique, et donc un intérêt pour une poésie très raffinée et en même temps pour une poésie très populaire. Et donc il pouvait écrire avec des mots qui étaient des mots très raffinés, mais il pouvait écrire aussi dans des formes qui étaient très populaires. Et la forme de la chanson était une des formes vers lesquelles il pouvait s'orienter, voir la chanson la plus réaliste. À un moment, il dit que quelqu'un est quitté par quelqu'un d'autre, et ça lui fait comme un poignard dans le cœur. Donc on croirait presque lire, c'est vraiment une comparaison, on croirait une chanson d'Édith Piaf, quoi. Deuxième exemple. J'espère que j'ai bien noté, ça s'appelle « Jour de 1903 », il a fait à peu près toutes les années comme ça. Donc « Jour de 1903 », je ne les ai plus retrouvés, eux que j'aurais si vite perdus, les yeux pleins de poésie, la pâleur du visage, dans la nuit qui gagnait la rue. Je ne les ai plus retrouvés, eux que le hasard seul m'a donné, et dont je me suis si facilement détaché, pour les désirer ensuite avec angoisse, les yeux pleins de poésie, cette pâleur du visage, ces lèvres-là, je ne les ai plus retrouvés. Donc, je pense qu'on entend bien, et en cela la traduction de Dominique Grandmont fonctionne quand même assez bien, on entend bien le côté presque un peu naïf, je trouve, enfin, ouais, naïf, mais au sens le plus, pour faire un peu prétentieux, disons, au sens de Schiller, quoi, au sens vraiment intéressant du terme, au sens où la poésie a un rapport avec la production du peuple, et une production du peuple. Et donc cette production fonctionne comme des refrains, et on a là sans doute cette véritable langue grecque commune que Cavafy disait qu'il voulait atteindre et dont il a parlé dans un des poèmes que je vous ai lu. Hein, c'est d'assumer la niaiserie, c'est d'assumer, ou le naïf, disons, hein, c'est d'assumer le cliché, etc. Et c'est d'assumer la reprise. Et au fond, c'est ça qui intéresse Cavafy, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui reprend en permanence, il reprend les formes anciennes, il reprend les comparants anciens, il reprend les citations, il est d'une sorte de mélancolie populaire, comme ça, et il fait comme la chanson, il fait appel à la reconnaissance. La reconnaissance est l'élément fondateur de sa poétique, c'est-à-dire c'est des choses, on les perd, on les reconnaît, on essaie de les retrouver, en fait. Et c'est comme ça que vraiment ça fonctionne sa poésie. Et donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui, au fond, est totalement amoureux de l'imparfait. Que, pour lui, il y a un seul lieu du désir, c'est l'imparfait. Et que ce qui est important, c'est de transformer cet imparfait en lieu du désir et de transformer cet imparfait en lieu du retour. Donc, contrairement à beaucoup d'autres poètes, qui, par exemple, vont mettre leur espérance dans le futur, si on pense à un poète que j'aime bien aussi, qui est aussi assez, comme ça, hanté par le désir sexuel, qui est Pier Paolo Pasolini, on voit par exemple dans les cendres de Gramsci que en fait tout son travail c'est de faire tourner le passé vers le futur et que le début du poème est au passé et que la fin du poème est au futur. Chez Cavafy, c'est vraiment essentiel, il y a deux temps, il y a quasiment pas de futur, il y en a peut-être un ou deux qui m'auraient échappé, mais il y a deux temps, il y a de l'imparfait et du présent, et ce qui est important c'est de faire tomber le présent dans l'imparfait. De faire en sorte que l'imparfait soit le temps dominant parce que l'imparfait, encore une fois, c'est le lieu du pothos, c'est-à-dire le lieu du retour, c'est-à-dire le lieu où ceux qu'on désire et qui sont morts ont une chance de revivre. Et c'est le lieu où la poésie qu'on désire et qui est morte a une chance de revivre. C'est le lieu où le grec qu'on désire et qui est mort a une chance d'être reparlé. Et je voudrais, pour conclure, vous lire un étrange poème. Enfin, étrange dans ce qu'il dit. Un poème qui s'appelle « Les fenêtres ». Alors, « Les fenêtres », c'est un thème aussi très important dans la poésie de cette époque. Hein. On pense, je sais pas, par exemple, au poème de Mallarmé, où il y a beaucoup de fenêtres. Et dans ces fenêtres-là, les fenêtres de Cavafy, il va nous expliquer pourquoi il aime tellement l'imparfait, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le lis, en tout cas. Les fenêtres. Dans l'obscurité de ces chambres, où je coule des jours pénibles, je marche de long en large pour trouver des fenêtres. S'il pouvait s'ouvrir une fenêtre, quel réconfort ce serait. Mais il n'y a pas de fenêtre. Ou est-ce moi qui n'arrive pas à en trouver? Et peut-être vaut-il mieux ne pas en trouver. Peut-être la lumière causerait-elle un autre supplice. Qui sait quelle chose nouvelle elle découvrirait. Donc voyez bien que ici, la fenêtre, c'est le danger que quelque chose de nouveau apparaisse. Hein, qui sait quelle chose nouvelle elle découvrirait. Et que ces choses nouvelles sont peut-être la lumière causerait-elle un autre supplice. C'est-à-dire la lumière en révélant, hein, la lumière, qui révèle les événements, qui est une espèce d'épiphanie, en révélant ces événements, elle ne peut créer que du supplice parce qu'elle apporte du nouveau et que le nouveau est quelque chose qui est fondamentalement dangereux dans l'univers cavafien. Donc la fenêtre qui en général est vécue soit comme ouverture dans la poésie, soit comme prison, soit comme contrainte, ici, elle devient finalement un motif du danger, c'est-à-dire que la fenêtre est ce dont on doit s'éloigner. C'est-à-dire, en général, dans les poèmes, souvent, très souvent, les fenêtres, c'est ce qu'on veut traverser, même si on n'y arrive pas. Et chez Cavafy, c'est ce qu'il faudrait presque fermer derrière de lourdes tentures, j'imagine, et après allumer de l'encens dans la pièce, pour réussir à conserver l'imparfait que la fenêtre menace. Et on pourrait dire, au fond, que Cavafy, c'est un poète à l'imparfait, parce que c'est un poète qui n'ose pas véritablement prendre, ou qui n'a pas envie, mais grand bien lui fasse, de prendre le risque de l'avenir. Je vous remercie. Et maintenant, c'est un film donc tiré de la collection Un siècle d'écrivains, qui dure 45 minutes.